Guira FM, le journal.
Samuel Bogoto.
Merci de votre fidélité d'écoute les titres de ce journal. Manifestation à candidature pour les législatives et les présidentielles. L'autorité nationale des élections renouvelle le stock des formulaires. L'élite féminine risque de disparaître si rien ne se fait pour promouvoir la scolarité des filles. Réaction de la présidente de l'association des femmes éducatrices pour le développement dans ce journal. Pénurie de la viande bovine à Niamey-Loua dans la sous-préfecture de Bois, les prix flambent. Bienvenue à tous.
Guira FM.
À la une de ce journal, les candidats aux élections législatives et présidentielles n'ont pas attendu longtemps après l'ouverture des candidatures pour se manifester. Ils ont totalement épuisé les formulaires obligeant ainsi l'ANE, l'autorité nationale des élections, à passer encore des commandes chez l'imprimeur. Le retrait des formulaires se poursuivra jusqu'au 27 novembre, date de la clôture des candidatures, a indiqué Julius Ngwadebaba, porte-parole de l'ANE, au micro de Boris Ngwagouni.
L'autorité nationale des élections, par une décision prise le 10 novembre, a annoncé la date d'ouverture des dépôts de candidature aux élections couplées législatives et présidentielles de 2015. Donc, il est prévu l'ouverture le samedi 14 novembre et la clôture le vendredi 27 novembre 2015. L'autorité nationale des élections a publié un communiqué invitant les éventuels candidats à venir au siège de l'ANE retirer les formulaires, n'est-ce pas, de déclaration de candidature, parce que la loi prévoit un certain nombre de pièces à fournir, mais aussi une déclaration de candidature signée des mains des candidats. Et donc l'ANE a conçu ce document et avec la liste des pièces à fournir. Et donc depuis deux ou trois jours, nous avons remarqué un engouement, n'est-ce pas, de nos compatriotes qui voudraient bien se présenter au suffrage de la population. Donc nous avons relevé un engouement de nos compatriotes à venir retirer ces documents pour faire acte de candidature. Nous avons dû demander à l'imprimerie qui nous a fourni ces documents de faire une réimpression.
Le porte-parole de l'ANE a ajouté que les récépissés d'inscription sur la liste électorale n'est pas exigé dans le dépôt des pièces de candidature.
Guira FM.
Au NAFA, l'Organisation nationale des personnes handicapées poursuit sa campagne de sensibilisation sur les droits des handicapés en période électorale. Une campagne visant à encourager les personnes vivant avec handicap à s'approprier le processus électoral. Ce vendredi, le NAFA a mis le cap sur le lycée d'État des Rapides dans le 7e arrondissement de Bangui. On fait le point avec Dieudonné Agou, le président de l'UNAFA, au micro de Julio Itadé.
Le droit est consacré par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'homme et cette convention, notamment son article 29, donne aussi droit aux personnes handicapées d'aller voter ou se faire représenter, d'être aussi bien à l'Assemblée, pourquoi pas le président de la République et dans toutes les institutions de notre pays. Et cette convention-là a été bien signée par notre pays, mais malheureusement n'a pas encore été ratifiée. Nous avons aussi deux résolutions des Nations Unies qui mettent un accent particulier aussi sur le statut de la personne handicapée lors des échéances électorales. Nous avons la résolution des Nations Unies 26-20 et 22-17 qui parle de ces droits des personnes handicapées. Mais nous avons aussi la déclaration des droits de l'homme, notamment son article 21. Nous avons aussi le plan des Nations Unies qui parle sur la décennie africaine des personnes handicapées et qui va de 210 à 219. Il y a aussi la charte africaine de démocratie et de bonne gouvernance en matière des élections qui met un accent particulier sur la place des handicapés dans le processus électoral. Et c'est pour cela que nous avons tenu à relater le tout pour que les handicapés puissent vraiment savoir qu'ils ont des textes qui leur protègent et qui leur donne le droit de faire usage de leurs droits civiques.
Guira FM.
L'avenir de la jeune fille centrafricaine sérieusement compromise par la sexualité, la grossesse et le mariage précoce. Face à la déperdition scolaire, à l'abandon massif des études par les filles, la FEDEC, l'Association des femmes éducatrices pour le développement, tire la sonnette d'alarme. Elle a organisé une journée de réflexion sur la problématique de l'éducation sexuelle à l'attention des enseignants et des jeunes filles. Dorothée Aimée Malinzapa, présidente de la FEDEC, a donné un point de presse ce vendredi au cours duquel elle a expliqué le sens de son combat pour l'émancipation de la jeune fille. On l'écoute.
Nous avions dans un premier temps organisé les journées similaires, mais en direction des filles elles-mêmes, où nous les avons sensibilisées aux dangers qu'elles courent, où nous les avons sensibilisées aux attentes de la population vis-à-vis d'elles, parce que ces filles sont les futures femmes de demain. Et vous savez aujourd'hui que les femmes doivent être placées dans des conditions idoines pour reconstruire notre pays. Ces filles ont été très réceptives à tout ce qui leur a été développé par rapport à la problématique de l'éducation sexuelle. Donc c'est après que nous avons pris les enseignants. Nous avons mis les enseignants devant le fait qu'après la famille, c'est à eux que revient la responsabilité d'éduquer les filles et qu'il n'était pas normal que l'école soit plutôt un lieu de danger pour nos jeunes filles qu'un lieu d'épanouissement.
Et puis les activités génératrices de revenus redonnent du souffle à 162 femmes victimes de violences sexuelles. Après être identifiées, elles avaient exprimé le besoin d'exercer des petits commerces afin de subvenir à leurs besoins. Elles sont assistées par CIAF, le Comité interafricain pour la lutte contre les violences en République centrafricaine. Avec l'appui de l'UNIFAM, CIAF a donc ce vendredi au stade 20 000 places de Bangui distribué des kits de commerce et ce en fonction de la branche d'activité commerciale choisie par ses bénéficiaires. Suivez les explications de Marguerite Ramadan, coordonnatrice de CIAF.
La deuxième phase de ce projet dont nous sommes en train de passer à la matérialisation, ça a été le même processus. Mais nous avons acheté des kits. Il y en a qui voulaient faire de la restauration, il y en a qui voulaient vendre du manioc, il y en a qui voulaient vendre des arachides. Donc on a procédé de la même manière. On leur a acheté les produits. On ensuite, pour les produits périssables, on va leur remettre les enveloppes. Et pour qu'elles ne puissent pas puiser dans le bénéfice de leur activité, on leur a donné une enveloppe de 10 000 francs pour la subsistance.
L'une des bénéficiaires, une élève d'un établissement scolaire de Bangui, a choisi la vente des produits alimentaires.
Bon, moi, dans le cas, moi, je veux vendre du poisson, du lait de palme, parce que auparavant, ma mère exerçait cette commerce. Moi, je trouve ça très bon de la part du fondateur, parce que auparavant, nous n'avons pas d'aide, mais en ce moment, nous avons trouvé d'aide. Moi, je trouve ça très bien.
Et justement, le dossier des violences sexuelles commises à l'égard des femmes et des jeunes filles intéresse la justice. 21 juges, présidents des différents tribunaux relevant de la cour d'appel de Bangui et ceux de la cour d'appel de Boire ont terminé le 13 novembre une formation sur la lutte contre l'impunité concernant les violences sexuelles et en faveur de l'accès des victimes à la justice, organisée par l'association du bureau américain dans le cadre du projet de renforcement du secteur de la justice en Centrafrique. Cette formation qui a débuté le 9 novembre vise à doter les magistrats d'outils juridiques afin de mieux lutter contre la violence sexuelle en Centrafrique. Guy Martial Namangere, président du tribunal de grande instance de Ndélé, est un des participants à cette formation. Il est au micro de Boris Ngagouni.
Je suis vraiment ravi parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et donc, comme nous a souligné tout au début de cette formation, il est question de nous entretenir un peu sur ce nouveau type d'infraction qui est en train de prendre de l'ampleur, à savoir les violences sexuelles. Nous avions appris beaucoup de choses à travers l'inspecteur général des services judiciaires qui nous a entretenus sur la déontologie de la profession. Et notamment la rédaction des jugements. Nous avions connu un cas, je crois, en 2012. Il y avait une fille de 14 ans d'ailleurs, qui s'était vue brutalisée par un groupe de jeunes, prétextant que non, cette fille-là, si on la laisse, quelqu'un d'autre devrait peut-être l'épouser. Il faudrait que par la violence, on arrive à exercer sur elle des actes sexuels pour que, bon, désormais, elle puisse nous appartenir. Et donc, c'est toute une famille qui s'est liguée contre cette fille. Les grands garçons ont maîtrisé la fille pour que le jeune homme choisi pour épouser cette fille-là puisse avoir des relations intimes avec elle, sans son consentement, bien sûr. Le verdict a été sévère, parce qu'il faudrait servir ces cas-là d'exemple pour que, à l'avenir, d'autres prétendants ne puissent pas penser à ça.
Guira FM.
Prenons à présent la direction de l'ouest du pays. La rentrée 2015 était présentée comme la première rentrée où tous les enfants pouvaient reprendre l'école sans craindre pour leur sécurité. À l'appel des professeurs, les élèves ont donc répondu présents, ce qui pose parfois des problèmes de nourriture. C'est en tout cas ce que constate Sœur Danielle qui s'occupe des écoles maternelles et primaires de Niem, à 60 km au nord de Boire.
Cette année, je vois qu'il y a une bonne reprise comme fréquence et comme inscription. Donc cette année, aux écoles primaires, il y a 168 élèves. C'est vrai aussi que cette année, on a donné la possibilité aussi aux garçons de commencer à fréquenter. Donc en CI, on trouve aussi une vingtaine de garçons. Et à l'école maternelle, on a 182 enfants. Parfois, ils s'endortent sur la table et banque. Ça veut dire qu'ils n'ont rien mangé. Donc, à 10 heures, je donne soit les potirons, soit les patates douces. J'espère qu'un jour, les PAM reprendront à me livrer quelques produits pour intégrer ce que j'ai fait l'effort de donner et aussi acheter les produits que les gens ont dans leur plantation. Bon, c'est aussi aider les parents derrière. D'autres me portent quelque chose comme contribution pour la scolarité, donc je ne peux absolument pas refuser ça.
Avoir la viande de bœuf se négocie durement sur le marché. Quand il y a insécurité, les prix grimpent. Les attaques contre les éleveurs peuls et le vol de leurs troupeaux aggravent aussi le manque de viande de bœuf. Voici le témoignage d'Ousmane Abidjou, éleveur de Niem-Niloa, une commune à majorité peul située à 100 km au nord de Boire, au micro d'Adrien Blanc.
Vous savez, dans le moment difficile là, c'est ce qui se passe ici en Centrafrique. Pleinement des éleveurs sont traversés. D'autres qui sont au Cameroun, il y a d'autres qui sont au Tchad, il y a d'autres qui sont au Soudan, etc. Mettre nos baies, c'est différent au pays frontalier. Notre baie ne peut pas supporter au Tchad, au Cameroun, au Soudan. Mais quand même ici, par la grâce de Dieu, avec le coup de main des Nations Unies et avec les forces FAKA qui sont là, il y a les éleveurs. Toute personne qui a des moyens peut venir acheter. Il y a les gens qui sont quittés de Baoro, de Beperati pour venir ici chercher les baies. Même par exemple bois, 1 kilo à 3 000, mais ici c'est nous en Yeloa, 1 kilo à 1 000 francs. Lorsque le pays est bon, on achète 1 kilo à 600.
Ousmane Adibou estime qu'une majorité des éleveurs de Niem-Niloa ont perdu leur bétail depuis la crise. À Kakabandoro, la liste électorale provisoire de la préfecture d'Ananagribizi est arrivée ce vendredi. Selon le calendrier électoral, les démembrements de l'ANU ont jusqu'à 24 novembre pour le redéploiement et l'affichage des listes dans les centres d'inscription. L'ACE de Kakabandoro invite les électeurs à s'apprêter de se rendre dans les centres pour la vérification et la confirmation de l'inscription de leur nom sur la liste provisoire. François Salagba, vice-président de l'ASPE, au micro de Marie-Chantal Lumba.
Ces listes électorales, nous allons les plancarder là où les gens se sont fait inscrire. Donc chacun viendra dans son centre là où il est inscrit pour vérifier si son nom ou bien l'inscription a été bien faite pour ne pas qu'il y ait des erreurs. S'il y a des erreurs ou bien de mauvaises transcriptions, bon, et la personne dénonce ça et on rectifie ça après. Pour le collage de ces listes-là, je crois que c'est seulement le moyen de transport là qui causera ce problème-là. Parce qu'il faudrait que tout le monde se déplace en même temps pour que tout soit collé en même temps et que pour que tout se passe bien et rapidement. Nous, on attend toujours notre assistance électorale intégrée parce que nous, ASPE, on n'a aucun moyen, même pas un bic, ça je vous le dis, même une feuille, on n'en a pas aussi. Donc, nous tournons les yeux seulement que sur notre assistance électorale intégrée.
De la MINUSCA.
De la MINUSCA, bien sûr. Pour la liste électorale, quand elle sera placardée, il ne faudrait pas que les gens s'amusent à les déchirer ou bien à griffonner là-dessus. Donc, il faudrait que les chefs de quartier, bon, les personnes qui sont juste à côté, essaient même de garder ça jalousement pour que les gens ne puissent pas déchirer ou bien salir ça.
Toujours à Kakabandoro, un mouvement de panique a été constaté jeudi soir dans le camp des déplacés évêchés. Certains déplacés ont commencé à quitter le camp pour se réfugier aux abords du quartier général de la MINUSCA. Ces personnes, suite à des rumeurs, craignant que les incidents qui se sont produits à Batangafou il y a deux jours se reproduisent à Kakabandoro. Incident de Batangafou où un site des déplacés a été attaqué par des hommes armés après avoir découvert dans la journée deux personnes de leur groupe mortes. Les déplacés ont été rassurés grâce à la sensibilisation des autorités locales et la MINUSCA. Les forces de la MINUSCA prévoient d'instaurer un checkpoint aux abords du sud des déplacés et de renforcer les patrouilles nocturnes.
Invité de la rédaction. Guira FM.
À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, Jean Skagia, représentant de la FAO en Centrafrique, nous éclaircit sur la thématique de la journée, la protection sociale pour en finir définitivement avec la pauvreté dans le monde.
Guira FM reçoit aujourd'hui M. Jean-Alexandre Skagia, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Monsieur Jean-Alexandre Skagia, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, comment on peut définir ce choix qui a été porté sur la protection civile sociale pour en finir définitivement avec la pauvreté dans le monde? Alors, le point focal de ce thème, c'est bien basé sur la pauvreté. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus?
Oui, sur le point, donc le thème exact, en effet, c'est protection sociale pour en finir définitivement avec les pauvretés dans le monde rural. ce thème normalement qu'on aurait dû célébrer. Alors bon, les évêques ont un peu décalé la célébration qui aura lieu demain dans l'enceinte du ministère délégué à l'élevage à Bangui. Ça aurait dû être célébré le 16 octobre, donc quelques jours de retard, mais c'est pas très très grave. L'idée en effet de cette thématique choisie par l'ensemble des pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, c'est de mettre en valeur qu'on ne doit pas quelque part associer systématiquement, il y a trop le monde rural et pauvreté. Et c'est vrai que c'est une association qui est présente dans beaucoup d'esprits à travers le monde. Et il est vrai aussi de constater que la plus grande pauvreté à l'heure actuelle dans le monde reste dans le monde rural, dans le monde agricole. La faim s'est stabilisée dans le monde. La statistique officielle, on reste à peu près à 800 millions. C'est très élevé, hein. Mais à peu près 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Mais par contre, la pauvreté, l'extrême vulnérabilité, c'est plus d'un milliard de personnes qui vivent dans l'extrême vulnérabilité. Et les deux tiers des gens qui vivent en situation d'extrême pauvreté sont les personnes du monde, sont les gens qui vivent dans le monde rural, sont des paysans, sont des éleveurs. Donc l'idée c'est de dire pourquoi, comment, que veut dire l'idée de protection sociale qu'on a tendance à associer au monde urbain, au monde industriel, comment faire pour amener cette protection sociale dans le monde rural et aider en effet définitivement le monde agricole à sortir de cette pauvreté par des initiatives positives, des États, des privés, etc. Donc c'est un petit peu la question qu'on se pose et d'enlever cette image qui colle au monde rural, qui dit monde rural dit pauvreté. C'est pas une fatalité.
Quand on parle de faim, on se demande pourquoi fait-on cette différence entre la famine et la faim.
L'idée, vous savez, par exemple, on donne un exemple simple quand on parle justement de cette idée de protection sociale. Par évident, dans beaucoup de pays dans le monde, que le secteur industriel bénéficie, on voit la protection sociale comme un investissement. La protection sociale, c'est une définition très très large. Justement, si on veut éliminer la faim, il faut vraiment mettre les paysans en situation de production. Il faut que les paysans soient heureux d'être des paysans. C'est aussi simple que ça, quelque part. Il faut qu'ils aient accès à un certain nombre de services, parce que la protection sociale, c'est aussi l'accès à des services. L'accès à des services comme l'éducation, l'accès à des services comme les soins, l'accès, ça fait partie de la protection sociale des gens. Et en effet, le monde rural est très largement défavorisé en matière d'accès aux services. Accès à des services bancaires aussi, ça fait partie de la protection sociale. C'est pas que la sécurité sociale, le remboursement de vos soins médicaux, mais c'est l'accès à tout un tas de services qui font que vous êtes capable de bien vivre. Si vous êtes capable de bien vivre, vous produisez plus. Or, à l'heure actuelle, l'année dernière, le thème de l'année dernière, c'était l'agriculture familiale. Je rappelle que plus de 2/3 de la production mondiale dépend de l'agriculture familiale. Ça veut dire que si on veut éliminer la faim dans le monde, et ça va être très vrai pour un pays comme la Centrafrique, il faut que cette agriculture familiale produise plus. C'est pas uniquement sur les grandes productions industrielles de la planète. C'est l'agriculture familiale qui est le plus gros contributeur à la sécurité alimentaire dans le monde. Et c'est dans l'agriculture familiale que restent les plus grandes réserves, les plus grands potentiels d'augmentation de la production pour éradiquer définitivement la famine de cette planète. Encore est-il, une fois de plus, que les gens soient heureux d'être paysans et aient cette capacité, en effet, de produire correctement.
Alors, si nous voyons bien ces derniers temps, cette dernière crise qui vient à peine de se passer, les Centrafricains ont toujours eu à se demander, ils n'ont jamais mangé à leur faim, et voilà que la crise est intervenue. Alors, est-ce que cette crise qui va encore accentuer la faim, comment on peut faire pour le Centrafricain pour qu'il puisse vraiment manger à sa faim, pour qu'il ait la santé pour faire le travail qu'il désire apprécier?
C'est simple et compliqué. En même temps, c'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire, quand on regarde la situation de la Centrafrique à l'heure actuelle, la Centrafrique a perdu sa souveraineté alimentaire à cause de ces crises répétées et de manière très rapide ces dernières années. Je rappelle que jusque dans les années 2000, la Centrafrique avait une espèce de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que la Centrafrique produisait assez pour se nourrir. Non seulement elle produisait assez pour se nourrir elle-même, mais elle exportait. C'était un grand pays exportateur sur le marché sous-régional, notamment de manioc et de bétail, plus grand exportateur de bétail, qui représentait une force économique nationale importante. Que se passe-t-il à l'heure actuelle? Alors, premier point, en effet, de la situation difficile, et je pense qu'il y a des exercices en cours avec nos amis du Programme Alimentaire Mondial, avec le gouvernement, avec nous-mêmes, pour évaluer la situation. Les chiffres vont être mauvais. On n'a pas encore le détail, vous les aurez dans quelques jours, mais on sait que les chiffres, en effet, de l'insécurité alimentaire, des déficits nutritionnels, vont pas être bons. C'est une crise qui s'aggrave. Parce que, premier point, la Centrafrique est très largement dépendante des importations. Alors que pendant très longtemps, Bangui était nourri par la zone périphérique de la ville, sur des circuits très courts.
ces circuits ont été déstabilisés, les gens ont quitté les zones périphériques qui sont devenues instables, les grands marchés à bestiaux par exemple sont fermés, vous le savez. Le nombre de pêcheurs qui vivaient de la pêche sur l'Oubangui à cause de l'insécurité a beaucoup régressé, la prise de poissons dans l'Oubangui. On a réhabilité peu de temps sur Wango, dans le 7e arrondissement de Bangui, une très vaste zone de pisciculture qui a été complètement abandonnée ces trois dernières années. On a réhabilité 50 hectares, mais il reste encore 400 hectares à réhabiliter, qui ont été totalement abandonnés par les gens. Les productions vivrières, y compris de manioc nationales, ont diminué. Les productions de fruits et légumes ont diminué pour toutes ces raisons-là.
Je vous remercie.
Merci, merci à vous, merci aux auditeurs. Et en effet, j'espère que le message passera loin et qu'on aura une belle célébration nationale de cette journée mondiale de l'alimentation. Merci encore.
Ainsi prend fin ce journal de Guira FM. Merci de l'avoir écouté. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle. Au micro, Samuel Bogoto. Sur la manette, il s'appelle Aimé Doudou.
Vous étiez à l'écoute du journal de Guira FM.